Vous observez qu'autour de vous, les équipes travaillent fort, que les gens sont bons. Toutefois, vous constatez que les budgets de formation sont souvent plus octroyés aux leaders et aux gestionnaires qu'aux employés. Vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est équitable? Je suis Annie Boilard, spécialiste du leadership, du monde du travail. Je travaille avec la super équipe du réseau Annie RH et aujourd'hui, on s'intéresse à cette question qu'on appelle dans la littérature le followership. Le followership, c'est la volonté et la capacité d'une équipe de s'approprier la vision d'une tierce personne et de contribuer à l'atteinte des objectifs communs. Barbara Kelman, c'est une chercheuse qui est professeure à l'Université Harvard. Elle, ça fait des années qu'elle déchire sa chemise sur la place publique pour expliquer aux gens que ces habiletés dont on se parle des équipiers sont aussi importantes dans l'atteinte d'un objectif commun que la contribution du leader, du gestionnaire. C'est ce qu'elle appelle, elle, le followership et son grand constat, on ne porte pas assez d'attention et d'intérêt à ses compétences et on ne les développe pas assez. Nous, au Québec, on a un défi particulier avec ce concept-là et ça réside dans notre langue. Parce que lorsqu'on nomme followership, une traduction littéraire serait « les suiveux ». Mais là, si moi, je vais vous offrir une formation pour devenir un bon suiveux, je suis pas certaine que je vais avoir beaucoup d'inscriptions. Il y a une connotation négative qui accompagne ce terme, ce qui fait que, collectivement, nous en parlons très peu et par conséquent, nous laissons tout l'espace à ce terme, le leadership, qui lui a bonne presse. Et c'est comme si inconsciemment, nous sommes toujours à nourrir le fait que l'atteinte des objectifs, les succès, sont tributaires d'abord et avant tout des gestionnaires. Je mettrai le mot « followership » de côté pour les prochaines minutes. Je sais que ça n'a pas bonne presse, mais traduisons-le comme étant une contribution active à l'atteinte des résultats. Première partie, nous disions tantôt « volonté et capacité de l'équipe à s'approprier la vision d'un gestionnaire ». Pensons-y, c'est loin d'être simple. Même dans les meilleures conditions, imaginons ici un gestionnaire qui a une vision très claire et qui l'articule aisément. Même dans ces conditions, et ça ne veut pas dire que pour l'employé, il sera facile d'aller de l'avant. D'abord, c'est loin d'être certain que la personne comprend spécifiquement qu'est-ce qui est attendu d'elle, de lui, de eux, dans ce contexte-là. On peut très bien comprendre ce qui est attendu de nous, mais on peut être en désaccord aussi. C'est pas facile de s'approprier une vision lorsqu'on ne la partage pas. Il y a un troisième cas d'espèce. On peut comprendre ce qui est attendu de nous, être en accord, mais être attristé par la situation. Parce que soit on y perd quelque chose, peut-être notre équipe y perd quelque chose. Donc, soutenir cette vision, se l'approprier, même dans les meilleures conditions, c'est ardu. Et là, je vous passe, hein, quand la vision du gestionnaire n'est pas claire, parfois elle change aussi en cours de route, là, ça se complique. Pour être en mesure de faire ça, les équipes vont devoir développer des compétences comme opérationnaliser, concrétiser une vision pour la mettre claire pour nous. Il va falloir aussi développer ses habiletés de courage, d'influence, parce que ça ne veut pas dire que la personne va être d'accord. Il faudra donc être en mesure de partager ses craintes, ses préoccupations et d'écouter activement les réponses. Gardons en tête ici le followership, donc cette capacité de contribuer au succès collectif, c'est loin d'être une quête pour développer des gens qu'on va appeler entre guillemets des « yes men ». Cette idée ici, ce n'est pas que les gens déploient aveuglément des directives que d'autres ont articulées. Qui sait, peut-être y a-t-il des erreurs, des risques dans ces visions. Alors, lorsque c'est le cas, c'est important que la personne soit en mesure de le nommer. On ne cherche donc pas des yes men. La deuxième partie, il faudra aussi que les équipiers soient en mesure de contribuer au succès collectif. Pour ce faire, ils vont devoir d'abord porter cette vision, donc possiblement s'auto-gérer, gérer ses dialogues internes, faire preuve d'intelligence émotionnelle, d'ouverture, de flexibilité. En gros, ce qu'elles vont devoir faire, c'est accepter de recevoir des directives, partager leurs préoccupations, leurs craintes, tout en écoutant avec ouverture et flexibilité les réponses, puis livrer ce qui va être attendu d'elles. C'est toute une question, cette histoire de followership. À nouveau, comme nous n'avons pas de mots pour en parler et qu'il m'a pris plus de 12 mots pour l'expliquer dans sa plus courte expression, mais nous avons tendance à ne pas beaucoup en parler du concept. Par conséquent, lorsqu'on omet d'entrée de jeu tantôt, on a l'impression qu'on valorise moins les équipes, développe moins leurs compétences, mais c'est souvent un fait. Nos budgets de formation sont répartis davantage pour les leaders que pour les employés. Nos gestes de reconnaissance aussi semblent être teintés de cette réalité. Quand on dit reconnaître les compétences requises pour contribuer au succès collectif, c'est pas juste de se dire des phrases creuses du type « Hey, qu'on s'aime beaucoup » puis un beau petit chin-chin au party de Noël. Ce qui est en cause ici, c'est vraiment d'identifier ces compétences, de les valoriser, de les développer, de les rémunérer, de les recruter. C'est ça qu'on veut dire par valoriser, vraiment leur donner une vie, une identité. Hey, je vous laisse réfléchir. Bonne réflexion.